Orient Hebdo, Éric Bataillon.
À l'occasion de ces fêtes de Noël, peut-on évoquer une renaissance du christianisme dans les pays d'Afrique méditerranéenne? En tout cas, l'on constate que les églises catholiques et les temples protestants, délaissés ou peu fréquentés depuis la fin de l'époque coloniale, se voient aujourd'hui redynamisés. Le blocage des frontières européennes depuis une vingtaine d'années encourage les migrants subsahariens à s'installer de plus en plus durablement en Afrique du Nord, notamment au Maroc, dont la politique migratoire s'est assouplie ces dernières années, ces migrants devenant naturellement les acteurs du déploiement d'une offre religieuse chrétienne multiple et dynamique. Un phénomène que décrit et nous explique la socio-anthropologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, Sophie Bava, dans un entretien enregistré et diffusé une première fois au mois de juin, et que vous pouvez retrouver en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Sophie Bava.
Bonjour Éric Bataillon.
Coordinatrice du laboratoire international Movida pour mobilité, voyage, innovation et dynamique. Et vos recherches portent sur les migrations africaines et les constructions religieuses musulmanes et chrétiennes entre l'Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Nous sommes en ligne avec vous depuis Marseille. Sophie Bava, les flux migratoires ne sont pas sans influence sur l'évolution sociale dans les pays qu'ils traversent. C'est le cas au Maroc, où la migration subsaharienne a depuis quelque temps un impact nouveau sur le plan religieux. Lequel ?
Oui, tout à fait. Effectivement, au Maroc, depuis une vingtaine d'années, on a constaté une forte évolution des flux migratoires, comme vous le dites, qui est évidemment liée au blocage des flux vers l'Europe, au blocage en Afrique méditerranéenne. Et ce qu'on aperçoit d'un point de vue religieux, c'est une redynamisation des espaces religieux chrétiens. Donc les églises historiques, églises historiques catholiques, églises historiques protestantes, et d'un autre côté, la naissance d'une multitude de petites églises informelles, églises de maison, surtout dans les grandes villes et sur les territoires dans lesquels s'installent ou passent les migrants.
Ces églises chrétiennes au Maroc, qui étaient donc issues, vous l'avez dit, de différentes origines et aussi des colonisations, on suppose, espagnoles et françaises, ces églises chrétiennes étaient-elles fréquentées ces dernières années ?
Depuis les indépendances, on avait bien entendu remarqué une forte diminution des fréquentations dans ces églises. Globalement, les expatriés, évidemment, qui venaient d'Europe ou d'ailleurs, et puis les personnes chrétiennes qui étaient restées au Maroc d'origine étrangère. Mais c'était des lieux de culte très peu fréquentés. Et côté protestant ou catholique, beaucoup d'églises avaient fermé. Et beaucoup d'agents du culte, hein, de pasteurs ou de prêtres, n'était plus sur le territoire. Pour le côté protestant, il n'y avait plus qu'un seul pasteur sur le territoire il y a une vingtaine d'années qui faisait tout le territoire marocain. Côté des églises catholiques, sur deux évêchés, il y avait bien entendu deux évêques qui restaient et puis quelques acteurs religieux présents dans les grands sites. Mais évidemment, une très grosse baisse de fréquentation et puis peu à peu, des étudiants, des personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne et d'Afrique centrale avec leur dénomination religieuse, soit catholique, soit protestante, à l'intérieur du protestantisme aussi de nombreuses dénominations, et qui vont redynamiser tous ces espaces religieux au Maroc.
Mais est-ce que ces nouveaux arrivants, issus donc de l'Afrique subsaharienne, ont investi les édifices officiels ?
Oui, bien sûr, ils ont investi les églises officielles quand ils pouvaient, parce que souvent les églises officielles à l'époque coloniale étaient situées dans les centres-villes. Et souvent, les quartiers de migration sont des quartiers qui sont un peu plus lointains et c'est pas toujours simple et on n'a pas toujours les moyens de se déplacer pour aller dans les lieux de culte. Mais oui, ils l'ont fait et ils continuent à le faire. Et on voit ce qu'on a pu voir aussi dans les mosquées en Europe à un certain moment, c'est-à-dire les églises qui débordent de fidèles. Et pour les acteurs religieux chrétiens au Maroc, c'était vu comme une bénédiction, tout ce peuple chrétien qui renaissait dans ce pays. Donc oui, ils ont investi, visiblement, ça se voit. Et ça se voit aussi par le nombre de personnes et d'acteurs du culte qui ont été remobilisés d'ailleurs, hein, et remobilisés d'Amérique du Sud, du reste de l'Afrique, etc., pour coordonner aussi tous les cultes qui ont lieu maintenant au Maroc.
Vous citiez des églises de maison. Est-ce une nouvelle forme de pratique religieuse chrétienne pour ces populations issues de l'Afrique subsaharienne?
Alors, on a déjà observé ça dans la mobilité. Je pense que dans toute forme de mobilité religieuse, il y a toujours un moment où l'informel va être de mise. On va faire avec ce qu'on a sur place. J'ai travaillé avant sur la confrérie Mourid en France, donc sur l'islam soufi, et on voyait que les daïras, donc les associations religieuses et les lieux où les gens allaient prier en dehors des mosquées, c'était souvent des appartements. Et ça, dans tous les siècles précédents, on voit bien que chaque fois que la mobilité religieuse est le premier... Les organisations vont avoir lieu dans les espaces du quotidien, hein, et ça peut être un ancien commerce, un appartement, etc. Donc on a déjà vu des églises dites informelles, églises de maison. Alors la manière dont on les nomme va dépendre un petit peu du point de vue, hein, informel, si on se place face aux églises historiques qui sont légales au Maroc. De maison, si on se place par rapport au lieu, ou église, certains diront de migrants, ou illicites, etc. Donc il y a plein de dénominations qui existent, mais effectivement, on dit souvent de maison parce que c'est dans les appartements, et ça s'est toujours vu dans la migration. Je l'ai observé aussi au Caire il y a une quinzaine d'années. C'est des espaces, par contre, qui vivent beaucoup plus, j'allais dire, que les églises officielles. La vie religieuse, la vie sociale, la vie tout court, hein, pour les migrants, elle s'arrête souvent dans ces espaces qui forment des communautés de destin où les gens vont se retrouver, vont discuter, vont échanger, vont se donner des conseils et organiser pas mal de séances de prière à plusieurs moments dans la journée, plusieurs moments dans la semaine.
Oui, justement, il s'agit de faire communauté plus que de se cacher, je suppose.
Ah oui, tout à fait. Alors, l'idée de se cacher du visible et de l'invisible, elle n'est pas complètement fausse non plus, hein, parce qu'effectivement, on a besoin de lieux pour prier, hein, pour se retrouver, mais aussi de lieux pour se donner plus de force spirituellement, mais aussi évidemment, cette force va jouer aussi dans l'espoir, dans la manière dont on va se projeter, et puis c'est le lieu de toutes les rencontres. Et l'invisibilité de ces lieux, c'est vraiment aussi la frontière, elle est tangible, parce que d'un certain côté, ces lieux, s'ils sont trop visibles, évidemment, dans certains pays musulmans, les gens peuvent être dénoncés aussi pour avoir prié parce que c'est pas forcément bien vu, etc. Mais c'est souvent aussi des moments joyeux, c'est des moments de chant, des moments de prière assez chaleureuses. Et de fait, ça déborde. Donc le son passe en dehors, etc. Mais il y avait plein de techniques, les gens avaient plein de techniques pour être invisibles, c'est-à-dire ne pas arriver tous à la même heure, rentrer, sortir deux par deux, c'est tout ce qu'ils nous disaient. Ce qui aujourd'hui, effectivement, est beaucoup plus toléré au Maroc. Et de fait, comme les personnes avec qui on a travaillé nous disaient, on a des papiers pour nos églises, on veut des papiers pour nos églises pour nous rendre légitimes. Sans être complètement légal, pour le moment, on va dire que depuis la politique migratoire dont on reparlera sûrement mise en place au Maroc, ces églises sont un petit peu plus légitimes.
Et comment se fait l'encadrement de ces communautés religieuses? Comment sont formés les prêtres ou les pasteurs?
La question de la formation, elle est à différentes échelles. D'un côté, il y a des vocations qui vont naître dans la migration. La migration, ben, comme vous le savez, c'est une longue route, mais c'est aussi un temps qui va de 6 mois à 5 ans ou 10 ans, des fois, pour certaines personnes. Et pour les pasteurs que j'ai rencontrés là-bas, c'était plutôt entre 15 et 20 ans de présence au Maroc. Plusieurs passages vers l'Europe qui n'ont pas abouti, etc. Et de fait, ce temps long de la migration, ça peut créer des vocations pour ceux qui ne sont pas pasteurs avant le départ. Donc la vocation, c'est aussi l'appel. À un moment donné, on reçoit un appel du Seigneur qui va nous dire voilà vers quoi on doit aller, etc. Et donc, on a des pasteurs qui arrivent et qui ont cette légitimité de par la route, de par les épreuves qu'ils ont rencontrées. Il faut voir qu'il y a tout un langage aussi de la mobilité qui est très proche du langage religieux, et qui légitime les pratiques religieuses. Et quelqu'un qui a vécu des épreuves dans son exil, donc là je fais un peu de poids sur les mots pour que ça rappelle aussi les grands récits, les épreuves, les exils, etc., à répétition, tout ça va donner aussi du poids à ces personnes. Donc avant même la formation, il y a le parcours, il y a la pratique qui va permettre à un moment donné d'accéder à une légitimité religieuse. Mais souvent, on est quand même face à des gens qui ont des formations religieuses dans leur enfance, dans leur adolescence, dans le pays d'origine. Et puis ensuite, il y a des espaces de formation maintenant au Maroc, et notamment un institut, l'Institut El Mouafaka, qui est né en 2012 au Maroc et qui a été créé donc à l'initiative de pasteurs protestants des églises historiques et de l'évêque de Rabat.
Avec ces nouvelles communautés, Sophie Bava, est-ce le christianisme qui s'installe de nouveau et durablement dans ce pays ?
Alors, c'est un christianisme, peut-être pas le même que celui que le Maroc a connu avant les colonies et pendant la période coloniale. C'est un christianisme qui est moins ancré dans la Méditerranée et qui est peut-être moins blanc aussi, on dira. Hein. Mais effectivement, oui, il y a une renaissance du christianisme au Maroc, mais qui ne correspond pas non plus à un nombre de fidèles hallucinant, puisqu'on n'a pas tellement de chiffres, mais on est sur à Rabat, une trentaine d'églises de maisons, peut-être un petit peu plus à Casablanca, à Tanger, enfin voilà. Plus donc des communautés de fidèles qui grossissent, mais des communautés aussi de fidèles qui ne sont pas stables, hein, parce que certains vont s'installer, mais beaucoup vont rester dans la mobilité et donc vont repartir ailleurs. Il y en a aussi pas mal dans l'encadrement religieux de pasteurs qui, du jour au lendemain, peuvent aussi reprendre la route. Donc on n'est pas sur des communautés stables comme les communautés qui ont pu exister dans les périodes historiques précédentes. Mais on est effectivement dans un christianisme qui reprend sa place autrement, un christianisme qui vient des Suds, hein, et qui vient du reste du continent, et qui reprend sa place au Maroc. Et pour les acteurs religieux des églises historiques, évidemment, c'est tout un projet religieux qui est aussi à reconstruire avec ces nouveaux fidèles.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes en compagnie de la socio-anthropologue Sophie Bava, spécialiste des migrations africaines. Sophie Bava, peut-on dire que la récente politique migratoire du Maroc, qui a vu le pays régulariser des dizaines de milliers de migrants, favorise cette réimplantation religieuse minoritaire ?
Les migrations dans l'ensemble transforment les paysages religieux, que ce soit au Maroc ou que ce soit ailleurs dans le monde. Effectivement, le fait de pouvoir aussi avoir des papiers, de pouvoir être régularisé, d'une certaine manière, ça pacifie un petit peu les rapports, et notamment les rapports aussi entre les chrétiens et les musulmans. Donc, dire que la migration a, d'une certaine manière, transformé le paysage religieux marocain et a réintroduit aussi une communauté chrétienne très diversifiée, beaucoup plus diversifiée que ce que le pays avait connu auparavant, mais une communauté chrétienne bien présente, oui, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, oui. Et de fait aussi une diversité religieuse dans un pays qui est musulman, dans lequel il y a aussi des juifs marocains.
Un pays musulman, vous l'avez dit, mais dont le roi est aussi le commandeur des croyants. Comment ce renouveau chrétien est-il perçu par les autorités et en premier lieu par le roi ?
Il faut le voir un petit peu dans le temps. Je pense qu'il y a eu aussi une véritable transformation de la vision aussi du gouvernement et du roi et du ministère de la Bouche sur cette question-là. Je pense qu'il y a eu toute une période où chrétien voulait aussi dire prosélytisme, et il y a eu une période en 2011 où il y a une centaine de présumés pasteurs ou de pasteurs qui ont été renvoyés, donc pasteurs évangéliques américains ou africains ou européens, qui ont été renvoyés dans leur pays. On est en 2011, on est dans une période où la migration commence à s'installer, mais on n'a pas une visibilité encore sur le type de christianisme qui s'installe. Et la peur quand même du prosélytisme, la peur aussi de ces églises évangéliques qu'on ne connaît pas, évidemment, va pousser aussi le gouvernement à faire des choix. Et c'est aussi pour ça que les acteurs religieux chrétiens vont prendre en main cette gestion-là, pour pas que le christianisme déborde non plus, pour que le christianisme soit encadré. Globalement, c'était important pour eux. Si les chrétiens qui arrivaient pouvaient relancer quand même un projet religieux chrétien au Maroc, il fallait pas non plus que ce projet il soit contrecarré par des missionnaires qui outrepassaient aussi, d'un point de vue religieux, aussi leur place. Et on pouvait avoir aussi dans les églises non officielles, parfois aussi des missionnaires qui avaient des discours plus guerriers, des discours aussi anti-musulmans, etc. Donc il fallait gérer cette multitude de christianisme et gérer avec pour qu'il y ait plus de tolérance, pour ce qui est plus de rencontres religieuses, etc. D'où la naissance de l'Institut Al-Muwafaqa qui a permis de favoriser aussi cette tolérance. Cet institut est aussi basé sur un décret, un daïr, qui permettait à l'Église catholique de former des personnes au Maroc. Donc les gens ont tenté, dans l'intelligence et dans la continuité, de préserver aussi un christianisme, mais un christianisme qui était tolérable et qui tolérait des deux côtés. Je pense que ça a réellement pris une place dans le discours au sein du royaume et du gouvernement, puisqu'en 2016, le roi, dans un discours à Marrakech, justement, je crois que c'était sur les minorités religieuses, disait qu'il était le commandeur des croyants, de tous les croyants. Et pour beaucoup de chrétiens qu'on rencontre, ils vont dire « notre roi ». Notre roi, c'est aussi lui qui est vu comme leur commandeur. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, qui a permis pas mal de pacifier aussi les rapports entre chrétiens et musulmans au Maroc. Ce rapport aussi où, finalement, la religion qui arrive avec l'étranger, si elle est un petit peu ordonnée, si elle est coordonnée plutôt même, ça peut se passer mieux quand même dans le pays. En 2019, le roi a invité le pape François à venir au Maroc. Donc on a fait un long chemin quand même en très peu de temps, en une dizaine d'années. Je vous disais, 2011, peur du prosélytisme, etc. Et puis 2019, invitation du pape. Donc le chemin, je pense, a été bien mené quand même.
Oui, l'institut dont vous parliez tout à l'heure est installé à Rabat, près de la grande cathédrale catholique. Oui. Les populations locales, Sophie Bava, quelles réactions peuvent-elles avoir? On peut penser que cette réimplantation chrétienne peut être source de conflits présents ou à venir, d'ailleurs, sur le plan local.
Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même une histoire de l'interreligion au Maroc, une histoire des missionnaires précédents, notamment côté catholique, avec les franciscains. Il y a toujours eu cette tolérance, ce besoin de rencontre, toujours été mis en avant au Maroc. Je ne vois pas réellement de tension dans les quartiers dans lesquels on a travaillé. On voit par moments, on l'a vu et on le voit de moins en moins, effectivement, les gens appelaient la police, effectivement, quand les chants étaient trop forts, et pour dénoncer tout simplement les migrants qui étaient là, qui n'avaient pas de papier, etc. D'une autre manière, ces migrants, ils ont apporté beaucoup économiquement aussi dans ces quartiers, puisque les gens ont aussi loué leur maison à des gens, avec d'autres personnes encore plus pauvres qu'eux. Donc on va dire qu'il y a des équilibres par moments. Ça ressort. Par moments, il y a des violences, par moments, il y a de l'intolérance. Ça va jusqu'à des crimes, évidemment. Mais la plupart du temps, dans ces quartiers dans lesquels les migrants sont installés ou ont installé leurs églises, il y a de plus en plus de tolérance. Et on a même vu jusqu'à des tentes à l'extérieur, où je me souviens d'une cérémonie de consécration d'un pasteur, où c'était le voisin qui a amené toutes les chaises. Enfin voilà, donc une curiosité, de l'entraide, des choses qui se passent aussi dans le temps qui sont plutôt intéressantes. Je vois plus dans le Maroc ce côté où c'est possible d'accueillir une diversité religieuse.
Plus largement, Sophie Bava, ce phénomène religieux constaté au Maroc, encore marginal mais bien réel, est-il constaté également dans la région ailleurs qu'au Maroc?
Oui. C'est vraiment, depuis la mise en place des politiques plus sécuritaires qui protègent l'Europe et des fermetures des frontières, évidemment, on va rencontrer un blocage des migrations sur le pourtour de l'Afrique méditerranéenne, de l'Égypte jusqu'au Maroc, avec du coup la même présence aussi de personnes venant de pays chrétiens ou étant chrétiens. Donc oui, on va rencontrer la même présence et pas toujours la même réponse. En Égypte ou en Tunisie, où on est sur des pays qui ont une tolérance différente, puisque ce sont des pays où les chrétiens, on peut être citoyen égyptien et chrétien, citoyen tunisien et chrétien, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Et pourtant, on n'a pas vu, dans les comparaisons qu'on a pu faire avec les collègues qui travaillent sur ces pays, moi-même ayant travaillé en Égypte, il y a Julie Picard qui a travaillé sur l'Égypte et puis Katia Boisvin sur la Tunisie, où il y en a d'autres. On n'a pas vu les mêmes transformations réellement au Maroc, puisque ça a été combiné à une politique migratoire et à une volonté aussi, je pense, de tolérance de la part du royaume, qu'on a pu voir cette diversité religieuse prendre forme et devenir plus légitime aussi dans le paysage religieux. Par exemple, entre les églises catholiques et protestantes, au Maroc, il y a pas mal d'œcuménisme. Il y a un vrai travail qui se fait ensemble. Et ça a vraiment aidé comparé à la Tunisie, par exemple.
Merci Sophie Bava.
Merci beaucoup Éric Bataillon.
Socio-anthropologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
Religion du monde.